VOA Afrique, le monde aujourd'hui. À Washington.
Bonjour à toutes et à tous, le monde aujourd'hui, VOA Afrique, édition du vendredi 22 septembre 2023, en direct de Washington, Idrissa Sidoudia. Pour commencer les titres, le chef de la junte guinéenne, le colonel Mamadi Doumbouya, proclame à l'ONU l'échec du modèle démocratique occidental en Afrique. Nous retrouverons notre envoyé spécial à New York, Alexandrine Hollognon. En Libye, plus de 43 000 personnes déplacées par les inondations dans l'est du pays. Au Mali, au moins 2 morts après des tirs d'obus à Tombouctou. Au Sénégal, dissidence dans le camp au pouvoir avec la candidature à la présidentielle d'un ancien premier ministre. Au Rwanda, un tueur en Syrie plaide coupable à son procès. Entre gratitude et plaidoyer, le président ukrainien Volodymyr Zelensky hier à Washington pour défendre la cause de son pays. Ne manquez pas notre page sport ainsi que la Minute Éco pour l'instant, le journal. Les dirigeants mondiaux se sont de nouveau succédés hier à la tribune des Nations Unies pour le 3e jour consécutif. Plusieurs interventions ont marqué la journée. Les chefs d'État africains ont notamment plaidé pour la présence du continent dans les instances de gouvernement mondial. Alexandrine Hollognon, notre envoyée spéciale à New York, revient sur quelques-unes de ses déclarations.
S'il y a bien une déclaration qui a marqué ce 3e jour du débat général, c'est celle du chef d'État guinéen Mamadi Doumbouya. En évoquant la résurgence des putschs sur le continent, le chef de la junte guinéenne a défendu le recours à l'intervention militaire dans la vie politique en affirmant que l'Afrique souffre d'un modèle de gouvernance qui lui a été imposé. « L'Afrique de papa, la vieille Afrique, c'est terminé », a-t-il clamé. La crise migratoire faisait aussi partie des sujets qui ont meublé cette journée. Pour le président centrafricain Faustin Archange Touadéra, l'afflux de migrants africains vers l'Europe est un résultat des pillages et de l'impérialisme occidental en Afrique. À la tribune de l'ONU, le chef de l'armée soudanaise, le général Abdel Fattah al-Burhan, en guerre depuis 5 mois contre les paramilitaires du général Mohamed Hamdan Daglo, a mis en garde que la guerre au Soudan va déborder dans d'autres pays de la région. Il a accusé les FSR, les forces de soutien rapide de son ancien numéro 2 d'Aglo, d'avoir fait venir des mercenaires de divers coins du monde et réclamé que les FSR et leurs milices alliées soient désignées comme groupes terroristes. Outre les chefs d'État africains, le dirigeant palestinien Mahmoud Abbas a déclaré qu'il ne pouvait y avoir de paix au Moyen-Orient sans une solution à 2 États, Israël et Palestine, lançant un avertissement au moment où l'Arabie saoudite envisage de reconnaître l'État hébreu.
Merci Alexandrine. Ajoutons toujours à l'Assemblée générale de l'ONU que la Chine a appelé hier à ne pas sous-estimer sa ferme volonté concernant Taïwan, tout en assurant que Pékin préférait une réunification pacifique. Le vice-président chinois Han Zheng a répété la position de son pays selon laquelle Taïwan est une partie inaliénable de la Chine, ajoutant « Personne ne devrait sous-estimer la solide détermination, la ferme volonté et le pouvoir du peuple chinois pour garantir sa souveraineté et son intégrité territoriale ». Le vice-président chinois a rencontré en début de semaine le secrétaire d'État américain Antony Blinken. Nouvel effort pour apaiser la relation tumultueuse entre les deux puissances.
VOA Afrique à Washington, vous êtes à l'écoute du monde aujourd'hui.
Plus de 43 000 personnes ont été déplacées selon l'ONU par les inondations meurtrières qui ont dévasté l'est de la Libye, notamment la ville de Derna où les communications ont été rétablies hier. Précision de John Linden.
Les recherches se poursuivent pour retrouver des milliers de disparus. L'Organisation internationale des migrations a publié jeudi des statistiques des personnes déplacées, établies à plus de 43 000, et le manque d'approvisionnement en eau aurait poussé de nombreuses personnes, initialement déplacées à l'intérieur de Derna, à la quitter pour d'autres villes de l'est et de l'ouest de la Libye. Les besoins urgents des déplacés portent sur la nourriture, l'eau potable, la santé mentale et le soutien psychosocial, a ajouté l'OIM. Selon le dernier bilan officiel provisoire communiqué mardi soir par le ministre de la Santé de l'Est, les inondations ont fait plus de 3 000 morts. Mais les organisations humanitaires et les autorités libyennes craignent un bilan beaucoup plus lourd en raison du nombre des disparus qui se compte par milliers.
Au Mali, au moins 2 personnes sont mortes et 5 ont été blessées hier après des tirs d'obus sur la ville septentrionale de Tombouctou, déjà sévèrement éprouvée par un blocus imposé par des djihadistes. L'armée malienne a donné dans un communiqué un bilan provisoire de 2 morts et 5 blessés. Joint précédemment par l'AFP, un élu de Tombouctou et une source hospitalière avaient parlé d'au moins 3 civils morts, dont des enfants. Le groupe de soutien à l'islam et aux musulmans, alliance djihadiste affiliée à Al-Qaïda, en lutte depuis des années contre l'État malien, a annoncé dans une série de messages début août déclarer la guerre dans la région de Tombouctou. Au Sénégal, Mohamed Boune Abdallah Dion, un ancien premier ministre proche du président Macky Sall, a déclaré jeudi sa candidature à la présidentielle de février 2024, fragilisant le candidat choisi par le chef de l'État au sein de la majorité, selon l'AFP. Le point avec Michel Joseph.
Monsieur Sall, élu en 2012 et réélu en 2019, a annoncé en juillet qu'il ne briguerait pas un troisième mandat. Il a désigné début septembre son premier ministre Amadou Ba comme candidat de son camp en 2024, prévenant que sa candidature est la seule et unique candidature de sa coalition. Le choix de M. Ba est contesté au sein de la majorité présidentielle, puisqu'au moins 2 autres figures de ce camp ont depuis présenté leur candidature. Une quarantaine de candidatures sont déclarées pour la présidentielle du 25 février 2024. La collecte des parrainages doit commencer fin septembre. Le Conseil constitutionnel validera ou invalidera les candidatures fin décembre. Avec le renoncement de M. Sall, mais aussi l'incarcération de l'opposant Ousmane Sonko, les Sénégalais sont plongés dans un flou sans précédent quant au nom de leur futur président.
À Kigali, au Rwanda, le tueur en série arrêté en juillet, Denis Kazungu, 34 ans, a plaidé coupable hier de l'assassinat de 14 personnes, la plupart des prostituées dont les corps ont été retrouvés dans un trou creusé dans sa cuisine. Il est accusé de 10 crimes, dont meurtre, viol, falsification de documents, usurpation d'identité et profanation de cadavres. Lors d'une audience dans un tribunal de Kigali, Denis Kazungu a déclaré « Celle que j'ai tuée m'avait transmis le sida ». Selon le procureur, après avoir rencontré ses victimes dans des bars, il les ramenait chez lui et les attaquait, les attachait, les déshabillait et s'emparait de leurs biens. Il les forçait ensuite à lui donner les mots de passe de leur téléphone et procéder à des retraits d'argent. Ensuite, il les tuait et les jetait dans le trou, a ajouté le procureur. Des victimes avaient pu s'échapper et fournir des informations à la police, a précisé le magistrat. Ici aux États-Unis, la menace d'un shutdown, c'est-à-dire la fermeture partielle des administrations fédérales américaines, a pris de l'ampleur jeudi alors qu'une majorité d'élus de la Chambre des représentants contrôlé par les Républicains, s'est opposé pour la troisième fois au vote d'un texte sur les dépenses militaires. Jean-Roger Bion.
Il s'agit d'un nouveau revers pour le calendrier souhaité par le speaker républicain de la Chambre, Kevin McCarthy, en dépit d'une réunion de plus de 2 heures entre élus républicains pour tenter de trouver un consensus et écarter le spectre d'un quatrième shutdown. La Chambre des représentants s'est opposée à 216 voix contre 212 à l'ouverture d'un débat sur un projet de loi de crédit de défense de 886 milliards de dollars. Un petit groupe d'élus issus de l'aile la plus conservatrice du Parti républicain ayant mené une fronde. Une fermeture partielle des agences fédérales débutera dans une dizaine de jours si le Congrès ne parvient pas à s'accorder sur un texte de financement à court terme ou sur une loi budgétaire pour une année entière. Les républicains de la Chambre ne parviennent pas à se rassembler derrière l'une ou l'autre des possibilités. Par ailleurs, les projets de loi évoqués n'ont pas le soutien des démocrates qui contrôlent le Sénat.
Beaucoup de remerciements, mais aussi un plaidoyer pour que l'aide américaine massive perdure. Volodymyr Zelensky, le président ukrainien, est venu défendre sa cause jeudi au Congrès à la Maison-Blanche à Washington face à un Joe Biden déjà convaincu et à des parlementaires qui ne le sont pas tous, surtout à la Chambre basse. « Nous sommes avec vous, nous restons avec vous », lui a dit M. Biden en détaillant une nouvelle aide militaire de 325 millions de dollars, mais sans les missiles tactiques à longue portée voulus par Kiev. La Minute Éco, Nathalie Barge.
Ce vendredi est le dernier jour des ateliers de deux commissions d'études de l'Union internationale des télécommunications à Abidjan sous le thème « Normalisation des réseaux futurs et technologies émergentes ». L'un des ateliers traitera notamment de l'intelligence artificielle, des réseaux quantiques améliorés et de la gestion des données. La Commission nigériane des communications a annoncé mercredi l'introduction d'un nouveau format de numérotation pour les lignes fixes au Nigeria à partir du 1er janvier. Ces numéros incluront désormais le préfixe 02 et compteront 10 chiffres contre 8 auparavant. Selon la NCC, le Nigeria compte environ 96 000 lignes de téléphonie fixe contre plus de 220 millions de lignes mobiles. Selon le gouvernement turc, les échanges commerciaux entre la Turquie et l'Afrique ont été multipliés par 8 au cours des 20 dernières années pour atteindre 40,7 milliards de dollars en 2022. L'annonce a été faite lors d'un forum d'affaires Turquie-Afrique à Istanbul. Le nombre d'ambassades turques en Afrique est passé de 12 à 44 au cours de la dernière décennie, a-t-il indiqué.
Merci Nathalie. À présent, les sports avec Yacouba Ouedraogo. Yacouba, bonjour.
Bonjour Idrissa, bonjour à tous.
Le portier camerounais André Onana s'est exprimé après la défaite de Manchester United face au Bayern Munich en Ligue des Champions.
Oui, bousculé pendant 20 minutes par Manchester United, le Bayern Munich est parvenu à s'imposer 4 buts à 3 sur sa pelouse, poursuivant une impressionnante série de 35 rencontres sans défaite en phase de groupe de la Ligue des Champions. À l'Allianz Arena, en l'espace de 4 minutes, le Bayern a plié la rencontre bénéficiant d'une énorme erreur de main du gardien de United, André Onana, arrivé cet été en Angleterre en provenance de l'Inter Milan. Le portier camerounais reconnaît des débuts difficiles avec Man U.
Remplacer David De Gea n'est pas chose facile. J'essaye de faire de mon mieux, bien sûr. Ce début de saison n'est pas ce qu'on veut, mais des jours meilleurs viendront, la situation va se retourner et je suis très confiant. Je sais que tout ira bien.
I'm very passionate player.
Je suis un joueur très passionné et j'exige beaucoup de mes joueurs et de mes défenseurs. Comme je l'ai toujours dit, nous sommes dans le même bateau.
We are in this together.
Faire partie de ce grand club est quelque chose de formidable. Manchester United est un club extraordinaire, c'est énorme. Je suis heureux d'être ici.
I'm happy to be here.
André Onana, portier camerounais de Manchester United.
La France prépare un consulat dédié à la famille olympique pour les JO 2024.
Oui, la France va se doter d'un consulat olympique pour centraliser à partir du 1er janvier prochain les demandes de visa déposées par la famille olympique pour éviter que des athlètes et leurs équipes restent sur le carreau. Selon les autorités, l'objectif de ce consulat, qui ne sera pas matérialisé par une entité physique, est d'éviter que les demandes de visa des délégations olympiques ou des sportifs internationaux ne soient noyées dans le flot des dossiers en préfecture déjà engorgés et soient traitées dans les temps, elles estiment. à près de 70 000 demandes qui seront traitées à partir du 1er janvier 2024 à Nantes, où est installée la sous-direction des visas. Quelques 15 000 athlètes sont attendus en France pour les Jeux olympiques prévus du 26 juillet au 11 août et paralympiques du 28 août au 8 septembre.
Merci, Yacouba.
Le Monde aujourd'hui, VOA Afrique.
De nouveau avec vous, Idrissa Sédoudia. Nous passons maintenant à nos dossiers du jour. Au Nigeria, l'ultimatum de 21 jours donné par les syndicats aux autorités fédérales a pris fin à quelques heures du début d'une grève illimitée contre la hausse du coût de la vie. Il y a 2 semaines, une grève d'avertissement de 2 jours avait paralysé les activités du secteur public. Un reportage de Gilbert Tamba à Abuja.
Khalid Daouda est un vendeur de journaux dans le grand quartier de Garki, au centre-ville d'Abuja. Il s'est dit préoccupé par les conséquences éventuelles d'une grève illimitée de la puissante centrale syndicale des travailleurs du Nigeria.
Le gouvernement leur demande d'être patients. Ils doivent donc être patients et non de décider d'aller en grève. Parce que s'ils vont en grève, cela va nous affecter tous, mais surtout les populations.
Les syndicats du Nigeria veulent aller en grève contre la hausse du coût de la vie aggravée par la suppression des subventions au carburant.
Les travailleurs de la fonction publique du Nigeria attendent désormais le mot d'ordre de la puissante centrale syndicale des travailleurs en pleine négociation avec les autorités fédérales.
Les négociations de dernière minute pour éviter la grève ont échoué jusqu'ici et les Nigériens suivent de près l'évolution de la situation.
Aller en grève pour résoudre les problèmes du pays, en particulier ceux du travail et des travailleurs, est important. Mais ce que je vois dans le cas nigérien, c'est que la grève du NLC ne peut pas résoudre le problème du Nigeria, parce qu'il y a beaucoup de corrompus. Certaines personnes de la NLC sont corrompues, beaucoup d'entre elles sont compromises.
Qu'est-ce que nous gagnons de tout cela? Cette grève en premier lieu. N'y a-t-il pas d'autres mesures que nous pouvons utiliser pour pousser notre gouvernement à travailler, sinon que les grèves de la NSI ou un autre organisme qui peut avoir d'autres moyens que nous pouvons utiliser pour amener notre gouvernement à nous écouter et à faire fonctionner les choses au Nigeria?
Depuis que la subvention au carburant a été supprimée, le premier jour du mandat du président Bola Tinubu, les prix de l'essence ont presque triplé au Nigeria, provoquant la colère des syndicats et également une flambée des coûts de transport. L'augmentation des prix a également touché les petites entreprises et des millions de ménages qui dépendent de générateurs à essence pour obtenir de l'électricité en raison d'un approvisionnement intermittent du réseau. Gilbert Tamba pour VOA Afrique, Abuja.
Le premier ministre du Gabon, Raymond Ndong Sima, a pris la parole mercredi au Conseil de sécurité de l'ONU, où son pays est membre non permanent jusqu'à fin 2023. Le coup d'État qui a déposé son président Ali Bongo a été dénoncé par la communauté internationale, mais est qualifié par Libreville d'opération de salubrité publique. John Lyndon a obtenu un entretien exclusif avec Laurence Ndong, ministre des Nouvelles Technologies de l'Information et de la Communication, porte-parole du gouvernement.
Il faut comprendre que l'opération militaire qui a été menée au Gabon, notamment le 30 août dernier, est considérée par la population comme une œuvre de salubrité publique. C'est une opération de libération. D'ailleurs, nous parlons d'opération de libération, nous ne parlons pas de coup d'État. Parce que la situation du Gabon, pour les observateurs avisés, ils savaient très bien que le pays était au bord de l'implosion. Le pays va mal, il va très mal depuis plusieurs années. Vous savez que le Gabon a été dirigé par une seule et même famille pendant 56 ans, donc près de 60 ans, ce qui est énorme. Et que durant ces 60 années, le niveau de vie des populations gabonaises n'a jamais été en corrélation avec la richesse du pays. C'est-à-dire que nous avons un pays qui est immensément riche de par les matières premières qu'il possède. Mais malheureusement, aujourd'hui, on a 70% des Gabonais qui vivent dans la pauvreté, dont 35% dans l'extrême pauvreté.
Justement, cette période de transition, elle est de 24 mois. Est-ce que vous pensez que cela suffisant au vu de ce que vous venez de décrire? Et puis, est-ce que le général Brice Oligui Nguema sera candidat au terme des 24 mois?
Pour l'instant, nous disons que la transition pourrait aller sur 24 mois. Ce n'est pas une affirmation. Pourquoi? Parce que qu'est-ce qui va décider de la durée de la transition? Le Premier ministre va avoir des consultations. Le président de la République a déjà commencé. Le général Oligui a reçu tout le monde, la classe politique, la société civile, et discute avec tout le monde. Le Premier ministre va faire pareil. Il va recevoir la classe politique, la société civile, les confessions religieuses, toutes les composantes de la société. Elles devront fournir chacune un document dans lequel il y aura un état de lieu du pays et les propositions. À partir de là, il y aura un document de synthèse. Sur la base de ce document de synthèse, une conférence nationale, une concertation nationale aux allures de conférence nationale va être convoquée. Les Gabonais vont discuter. Ils vont échanger sur la situation réelle de leur pays. Ils vont discuter sur où est-ce qu'ils veulent aller. Et à ce moment-là, on s'assiera pour voir combien de temps ça va nous prendre. Parce qu'il y en a qui veulent nous imposer une transition de 12 mois, d'autres disent 24 mois, d'autres disent 36 mois. Nous ne sommes pas pressés. L'histoire nous offre la possibilité, l'opportunité de remettre notre pays sur les bons rails. Et nous n'allons pas bâcler cette opportunité parce qu'il faut plaire à X ou à Y. C'est un problème gabono-gabonais.
On va terminer par là, par cette note d'espoir pour le Gabon et pour les Gabonais. Et est-ce que vous avez un dernier message à passer aux partenaires du Gabon, aux Gabonais de la diaspora et à vos voisins?
Le message que je veux passer, c'est celui du comité de la transition pour la restauration des institutions et plus particulièrement du président, le général de brigade Brice Kotter Oligui Nguema, c'est-à-dire que le contexte du Gabon est particulier. Ce qui s'est passé au Gabon, c'est un événement salvateur. Et ce dont le Gabon a besoin aujourd'hui, c'est d'être accompagné par tous ses partenaires.
Laurence Ndong, ministre des Nouvelles Technologies de l'Information et de la Communication, porte-parole du gouvernement gabonais.
La Voix de l'Amérique au Gabon sur Ogoué FM à Libreville.
Le Centre des études africaines de l'Université Harvard a organisé les 18 et 19 septembre à Boston un forum sur la République démocratique du Congo, un forum de réflexion sur la situation et les opportunités en RDC auxquelles ont été conviés plusieurs officiels congolais. Après ce forum de Boston, Mohamed Humfa a reçu dans nos studios ici à Washington le professeur Kishiba Fitula Gilbert, recteur de l'Université de Lubumbashi.
L'objectif, c'était de réfléchir sur le futur de la RDC à partir de l'ancrage justement de chaque secteur privé-public, le secteur scientifique et académique, et réfléchir sur les questions cruciales qui concernent la RDC, entendu que la RDC est connue pour être un espace de prédilection pour ce qui concerne les ressources naturelles, les ressources du sol, du sous-sol, mais aussi démographiques. C'est une potentialité sans mesure pour ce qui concerne, entre autres, l'équilibre des biodiversités et des écosystèmes mondiaux. Si se posent des questions climatiques aujourd'hui, la RDC est supposée être un pays solution.
Le forum s'est donc achevé. Qu'est-ce qu'il faut en retenir, professeur? Vous repartez avec quoi pour la RDC, pour votre université?
À travers le partenariat que nous avons noué désormais avec Harvard et d'autres établissements d'ici, d'autres centres de recherche, ce partenariat indique que nous sommes en mesure de porter les modèles, les méthodes, les approches de recherche et de formation ici en vue de mieux servir notre société.
Vous avez de nombreux compatriotes qui vivent ici aux États-Unis et ailleurs dans la diaspora, qui étudient, qui enseigne aussi. Qu'est-ce que ces compatriotes de la diaspora, qu'est-ce qu'ils peuvent apporter aux universités congolaises, et notamment l'université de Lubumbashi?
Oui, nous savons que tous les peuples et gens se sont développés parce que, entre autres, ils avaient investi dans la ressource humaine de qualité. La société en avait profité. Ainsi, ceux qui sont venus ici pour enseigner, les étudiants qui sont venus ici pour se former, les lumières qui sont venus chercher ici sont indispensables pour nos universités. Nous pouvons demander à l'élite qui se trouve ici d'intensifier le partenariat à partir des rencontres avec des universités et d'autres partenaires pour qu'à partir de là, justement, nous puissions aussi avoir plus d'ouverture et plus de perspectives de recherche et de formation.
L'université de Lubumbashi, votre université, est située dans un pays, la RDC, une partie du pays qui est riche en ressources naturelles. Que fait votre université pour préparer les jeunes Congolais, la jeunesse, à gérer et à développer le potentiel, notamment minier de ce pays, de cette partie du pays?
Nous insistons sur la formation de qualité, justement, dans les filières qui ont trait aux ressources naturelles, le sol et le sous-sol, flore et faune. Nous avons des facultés comme Polytechnique. L'Université Lubumbashi est chargée d'installer le centre d'excellence pour la fabrication des batteries électriques. Et comme tel, nous participons aux grandes conversations qui concernent justement la transition énergétique dans le monde.
C'était le professeur Kishiba Fitula Gilbert, recteur de l'université de Lubumbashi.
Lubumbashi en RDC sur le 102.8 FM, c'est bien évidemment VOA Afrique, 24h sur 24.
Quatre mémoriaux commémorant le génocide des Tutsis au Rwanda durant une centaine de jours entre avril et juillet 1994 ont intégré mercredi le patrimoine mondial de l'UNESCO. Il s'agit des sites de Nyamata, Murambi, Gisozi et Bisesero, a indiqué l'organisation onusienne. Pour comprendre les implications de cette reconnaissance pour la préservation de la mémoire du génocide, Eric Manirakidza a joint à Addis Abeba Jean-Pierre Karegeye, professeur de littérature et auteur de plusieurs ouvrages sur le génocide.
C'est une très bonne nouvelle, pas seulement pour les rescapés du génocide contre les Tutsis et qui a eu au Rwanda en 1994, mais je crois que c'est quelque chose qui nous remet ou qui nous permet une sorte de montée en humanité et pour chaque individu, pour chaque personne. Et ici, ce qui me vient en tête, c'est d'abord les déclarations de Henri Lopez, l'écrivain du Congo Brazza, et qui avait déclaré en 1994, voyant ce qui s'est passé au Rwanda, donc pendant le génocide, où on lui demandait son avis et il avait répondu « J'ai simplement honte d'être humain ». Et donc je crois que le grand événement, c'est cette reconnaissance, c'est surtout une façon pour moi de dire ce qui s'est passé au Rwanda nous concerne tous. Concerne tous les humains. Et je crois, pour moi, c'est ça le sens, surtout d'intégrer les quatre mémoriaux du génocide des Tutsis et parmi les patrimoines mondiaux de l'UNESCO.
Pouvez-vous expliquer comment les quatre mémoriaux contribuent à la préservation de l'histoire et à la commémoration des victimes du génocide des Tutsis au Rwanda?
Oui, d'abord au niveau de la commémoration, bien sûr, parce que il ne s'agit pas simplement, je veux dire, commémorer ce qui s'est passé uniquement au Rwanda comme espace physique, mais là, et de façon virtuelle, c'est-à-dire ce qui s'est passé au Rwanda, on se rappelle de ça dans n'importe quelle place dans le monde. Donc, de façon, et c'est ça le sens de patrimoine mondial, c'est-à-dire virtuellement, n'importe où, on vivra ce moment comme si ça s'était passé dans chacun de nous, ça s'était passé chez nous. Donc là, ça c'est un pour ce qui est mémoire. Mais aussi très très important, et c'est lié aussi à l'éducation, mais très important parce que il y a de plus en plus le négationnisme, donc des gens qui nient ce qui s'est passé en 1994, même dans la région autour du Rwanda. Et donc avoir un tel événement, je crois que, et reconnaître, disons, considérer les quatre mémoriaux comme patrimoine mondial de l'UNESCO, c'est très important aussi pour lutter contre le négationnisme qui se trouve déjà dans la région. région des Grands Lacs. C'est très important au moment où il y a la persécution, par exemple, des Tutsis dans la République démocratique du Congo. Et évidemment, mémoire et éducation vont ensemble. Je pense que cette reconnaissance aussi donnera plus de visibilité à ce qui s'est passé en 1994 au Rwanda. Que pour qu'on parle de plus jamais ça, il faut qu'on sache l'histoire, qu'on sache ce qui s'est passé au Rwanda.
Eh bien, pour appuyer la citation de l'écrivain congolais mentionné par Jean-Pierre Karege, le poète latin Terence disait « Homo sum nihil humani alienum »« Je suis homme, rien de ce qui est humain ne m'est étranger ». Jean-Pierre Karege est professeur de littérature et auteur de plusieurs ouvrages sur le génocide.